Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Washington a annoncé hier la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, dans un raid américain. Donald Trump va-t-il bénéficier politiquement de cette action ? La réponse de notre correspondant aux États-Unis.
Un abri pour toutes, c'est le nom d'un projet pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les centres d'hébergement d'urgence. Explication de Stéphane Genest.
Deuxième week-end de réunion de la Convention citoyenne pour le climat. Les participants tirés au sort travaillent à l'élaboration de propositions pour préserver la planète. Tandis qu'en Autriche, les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de l'ouverture d'une piste de ski sous un grand soleil et 15 degrés. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, que va changer la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi ? On posera la question à Pierre-Jean Luisard, il est directeur de recherche au CNRS.
La Maison-Blanche n'a pas tardé à publier la photo du président américain en salle de crise. Donald Trump au centre, entouré de son vice-président et de son secrétaire à la Défense. Car c'est pour le dirigeant un moment politique et militaire d'envergure. Il a annoncé hier la mort du chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, pendant une opération dans le nord-ouest de la Syrie. Donald Trump, visé par une enquête en vue d'une procédure de destitution, gagnera-t-il en popularité après cette annonce ? Pas si sûr, Loïc Loury.
Un grand jour pour notre pays, la plus grande victoire que l'on puisse avoir, comme souvent Donald Trump a versé dans l'emphase en annonçant la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Pour le président américain, il s'agit de capitaliser sur une opération décrite comme une réussite parfaite, quitte à en rajouter. Donald Trump est ainsi allé jusqu'à décrire la mort du leader de Daesh comme un événement plus important que celle de Ben Laden sous Barack Obama. L'opinion ne sera toutefois peut-être pas de cet avis, tant le chef d'Al-Qaïda était détesté après les attentats du 11 septembre. Mais les proches de Donald Trump sont au diapason. Mike Pence, son vice-président, affirme notamment que tout le crédit de cette opération est à mettre au compte du patron de la Maison-Blanche. Mais attention au retour de bâton, les critiques fleurissent déjà. Pourquoi la Russie, notamment, a-t-elle été tenue au courant avant les démocrates ? Une opposition, par ailleurs, qui compte bien imposer son agenda, celui de la destitution. Bref, Donald Trump ne va pas forcément récolter les fruits de cette victoire.
La correspondance de Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. On le disait, c'est malgré tout une victoire pour le président américain. Abou Bakr al-Baghdadi était l'homme le plus recherché du monde. La journaliste Sophia Amara avait remonté sa trace, ce qu'elle a raconté dans son livre « Baghdadi, calife de la terreur ». Il était, selon elle, très affaibli.
Il se déplaçait avec un nombre limité d'hommes. Il a perdu plusieurs de ses gardes-corps, son fils. Il a été donné pour mort plusieurs fois, par deux ou trois fois. Il est avéré que les caches où il se trouvait ont bel et bien été visées, mais qu'il a eu, comme on dit, la baraka, c'est-à-dire qu'il en est sorti indemne. J'ai été en contact avec des personnes qui ont vu al-Baghdadi à Mossoul en fin 2014, évacué vers un hôpital à Raqqa. De même, j'ai été en Irak en contact avec des djihadistes qui disait qu'il souffrait de fractures dues à des frappes aériennes. Donc il a bel et bien été visé, bel et bien été repéré. Les hommes que j'ai suivis ont retrouvé des médicaments de toutes sortes dans la tente dans laquelle il avait enregistré sa dernière apparition début 2019. C'était un homme malade.
La mort d'al-Baghdadi, un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le combat continue, a réagi le président français Emmanuel Macron. Le ministère de l'Intérieur conseille à ses différents services une vigilance accrue, s'inquiétant d'éventuels actes de vengeance. Nous y reviendrons dans le journal de 8h et avant cela dans la revue de presse internationale à 7h35. Un nouveau président pour l'Argentine, le candidat péroniste de centre-gauche, Alberto Fernandez, a remporté l'élection présidentielle au premier tour selon des résultats encore partiels. Environ 80% des bulletins ont été dépouillés. Il succède au libéral Mauricio Macri. Il achève son mandat au milieu de la pire crise économique en Argentine depuis 2001. En Italie, étaient organisées hier des élections régionales. La droite, menée par Matteo Salvini, l'a emporté largement en nombril, mettant fin à 50 ans de règne de la gauche. C'était la première élection dans le pays depuis qu'il a quitté le pouvoir.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre aujourd'hui. Les groupes de travail du Grenelle des violences conjugales rendent leurs propositions.
La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, doit les recevoir. Ils sont composés d'associations, d'administrations, d'experts et d'entreprises. Ce Grenelle, qui se terminera le 25 novembre, a notamment pour objectif d'approfondir et de proposer de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau. Lutter aussi contre les violences subies par les femmes dans les centres d'hébergement d'urgence mixte, Stéphane Genest.
La statistique est alarmante. Plus de 9 femmes sur 10 accueillies en centre d'hébergement d'urgence ont confié être ou avoir été victimes de violences. Un chiffre publié dans le diagnostic réalisé sur 3 structures franciliennes par la Fondation des Femmes. Pour Chloé Ponce-Voiron, coordinatrice du projet Un abri pour toutes et cofondatrice de la Fondation des Femmes, l'insécurité, les violences ou encore le manque de moyens n'arrangent pas cette situation.
Toutes ces choses-là, en fait, font que, en toute logique, en tant que femme, il n'y a pas besoin d'avoir eu un parcours de grande précarité ni de grande violence pour me dire que je ne me sens pas en sécurité. S'il faut que je sorte et que je traverse une coursive pour aller aux toilettes la nuit, ça me met en insécurité, en fait.
Les femmes ne sont pas des minorités dans les centres d'hébergement d'urgence. Et les faits de violence sont récurrents dans ces établissements. Une situation que ne tolère pas Pascale Lapalu, cofondatrice de l'association Genre et Ville.
Comme dans l'espace public, dans l'ensemble de notre société, les femmes sont plutôt en retrait, alors que les hommes occupent les centres de façon générale, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien dans les couloirs que dans toutes les coursives et aussi dans les lieux collectifs.
Pourtant, certaines structures ont déjà pris des mesures contre ces violences. C'est le cas d'un établissement à l'ouest de Paris où travaille Juliette Costagnac.
On n'a pas attendu, ça nous a motivés à mettre des actions en place. Donc, par exemple, des messages de prévention un petit peu partout dans le centre pour dire qu'on parle des violences, pour dire qu'on sait agir. Le questionnement systématique lors des entretiens qui est en train de se mettre en place. On organise des groupes de parole pour les femmes et, par exemple, on va créer un espace dédié non mixte spécialement pour les femmes.
La Fondation des Femmes espère ainsi alerter l'opinion publique afin que ces violences cessent et que l'État agisse.
Le chef de l'État qui sera à Francfort cet après-midi, Emmanuel Macron, assistera à la cérémonie de passage de témoin à la tête de la Banque Centrale Européenne. La Française Christine Lagarde, ex-patronne du Fonds Monétaire International, prend la place de l'Italien Mario Draghi. Avant cela, le président recevra à l'Élysée ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman. Après une polémique sur le voile, le Sénat examinera demain une proposition de loi du Parti Les Républicains visant à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. La grève des cheminots du technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine provoque des perturbations sur l'axe Paris-Atlantique. Seulement 30% des TGV circuleront aujourd'hui. 2 allers-retours sont prévus sur la ligne Paris-Nantes, 2 sur Paris-Rennes et 4 sur Paris-Bordeaux. On vous en avait parlé sur France Culture au moment de son lancement. La Convention citoyenne pour le climat qui réunit 150 Français tirés au sort se poursuit. Ils ont pour mission de faire des propositions au gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour le deuxième week-end de travail à Paris, les participants sont rentrés dans le vif du sujet en se lançant dans leurs propres travaux de réflexion, Diane Berger.
Avant le début d'une séance plénière dimanche matin, Amel est enthousiaste. Cette étudiante infirmière en Seine-Saint-Denis apprécie la tournure que prend la convention.
Le premier week-end, on a eu énormément d'informations, on était un peu des éponges à savoir, entre guillemets. Et là, on rentre, on va dire, dans le concret, c'est-à-dire que on commence à réfléchir à faire des législations, mais dans une justice sociale, et à voir qu'est-ce qui sera faisable, qu'est-ce qui ne le sera pas, etc.
Dans la pratique, les 150 participants sont divisés en 5 groupes de travail, autour des transports, de l'alimentation, du logement, de la consommation et de la production. Jean-Pierre, venu de Haute-Savoie, appartient à celui des transports.
Dans chacun de ces groupes, on rentre dans le détail de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est essentiel, ce sur quoi on doit travailler pour réduire ses émissions de CO2. Donc même si on n'a pas finalisé, si vous voulez, ce qui pourrait être promulgué en loi ou proposé, on est dans le détail de ce qui est essentiel et dans ce qui pourrait nous permettre de survivre dans le futur. Voilà, en fait.
Mais les débats de fond ne sont pas encore allés assez loin pour Robert, un retraité inquiet pour l'avenir de ses petits-enfants.
Je suis encore un peu dans l'attente de rentrer carrément dans le vif du sujet et de savoir où on veut nous amener. On est en train d'avoir des hypothèses. Et après, on va passer aux solutions. C'est là où j'attends le plus pour voir vraiment où on va aller.
À la fin du week-end, un texte très général est approuvé par les participants de la convention. Intitulé « Les messages clés adressés aux citoyens », il est surtout rappelé qu'il est urgent d'agir pour le climat et qu'il faudra changer nos modes de vie.
comme par exemple éviter de skier si ce n'est pas encore la saison. C'est en tout cas le point de vue des défenseurs de l'environnement en Autriche. La célèbre station de Kitzbühel, au cœur des Alpes, a ouvert il y a environ 10 jours, alors que le thermomètre frôlait les 15 degrés et que la neige n'était pas encore tombée sur la pente, Isorias.
La piste fait 700 mètres de long et 60 mètres de large. Un ruban de neige blanche situé à 1800 mètres d'altitude au beau milieu d'un paysage encore automnal. Cela est possible grâce à la technique du snow farming qui consiste à stocker de la neige d'une saison sur l'autre. Reinhard Schöpf est le directeur de la CIPRA en Autriche, association de défense des Alpes.
Cette neige est produite artificiellement l'année d'avant. Une partie est ensuite perdue avec le snow farming à cause des températures élevées l'été. Enfin, il faut la ramener sur la piste à l'aide de machines. Cela consomme donc beaucoup d'énergie pour un usage très restreint puisqu'il n'y a qu'une seule piste.
Les Verts ont eux aussi vivement critiqué l'ouverture de cette piste. Le parti écologiste, qui a obtenu 14% des voix lors des législatives de septembre dernier, discute actuellement avec les conservateurs d'une possible alliance gouvernementale. Et sur le ski, les Verts ont des exigences. Lucas Hammer, député écologiste.
Dans la majorité de nos domaines skiables situés entre 800 et 2000 mètres d'altitude, il ne sera plus possible de skier de manière régulière en 2050. Le réchauffement climatique frappe l'Autriche et les Alpes de manière beaucoup plus forte que le reste du monde. Nous savons que nous ne pouvons pas maintenir ce type de tourisme d'hiver. Ces domaines doivent donc repenser leur modèle économique et devenir plus résilients.
Le ski est une manne financière pour l'Autriche, pourvoyeur de près de 100 000 emplois directs ou indirects. Remettre en question ce modèle sera donc difficile, mais les Verts pourraient être plus audibles s'ils entraient au gouvernement.
Le reportage d'Isorias. Beaucoup de gris aujourd'hui selon Météo France, avec au nord de la Seine quelques brouillards ce matin. De belles éclaircies devraient se produire en fin d'après-midi sur la côte aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce matin, il fait entre 2 et 6 degrés de la Normandie aux Ardennes, 6 à 11 en général sur la moitié nord, jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée. Cet après-midi, vous n'aurez pas plus de 11 degrés à Paris, 12 à Lille, 21 à Bordeaux et Toulon et 23 à Ajaccio, Guillaume.